Et maintenant, on va lire ensemble du premier livre de Pierre, chapitre 1, commençant au verset 1. 1 Pierre, chapitre 1, au verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. Et maintenant au verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez, comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, et ont purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen, et Dieu lui-même bénira cette lecture de sa sainte parole. Tout change et tout tombe en décadence dans ce monde. C'est une vérité de l'existence. Aussitôt que l'on commence à vivre, on commence à mourir. Et comme l'herbe qui fleurit et qui sèche et qui meurt, notre vie tend toujours, inévitablement, vers la mort. Mais dans ce passage, nous voyons une chose qui ne change ni ne disparaît jamais. C'est le salut de Dieu. C'est son évangile. Et en particulier, nous voyons trois grands éléments incorruptibles de ce salut. D'abord, dans les versets 4 et 5, nous lisons « Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. » Là, nous voyons un héritage incorruptible. Ça, c'est la promesse de notre salut, car Dieu lui-même promet cet héritage incorruptible. Notez bien que cette lettre de Pierre est écrite aux étrangers et dispersés. Ce sont les chrétiens persécutés et chassés de leur terre, leur maison, à cause de leur foi. Ils étaient des réfugiés dans des pays étrangers. Ils étaient donc très pauvres, sans aucun des conforts de ce monde. C'est à eux que l'apôtre Pierre dit « Oui, vous êtes étrangers dans ce monde à cause de votre foi. Néanmoins, vous êtes élus selon la préscience de Dieu le Père. » Élus à un héritage incorruptible. Mes amis, n'ayez pas peur de ces mots « la préscience de Dieu ». Il y a des gens qui veulent expliquer ces mots en disant que Dieu a tout simplement regardé dans l'avenir et il y a vu ceux qui allaient accepter Jésus comme sauveur personnel. Puis, ce sont eux que Dieu a élus. Mes amis, sachez avec certitude que les choix et les actes de Dieu ne sont jamais limités par les décisions et les actes de l'homme. Non, pour comprendre la signification de l'expression « la préscience de Dieu », on n'a que lire la définition que la Bible elle-même nous en donne. Dans le deuxième chapitre des Actes et le verset 23, nous lisons, c'est Actes 2, 23, « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. » Ici, nous voyons la préscience de Dieu en parallèle, c'est-à-dire coordonnée, avec les mots « dessein arrêté de Dieu ». Selon les règles d'interprétation des Écritures, cela veut dire que le dessein arrêté de Dieu signifie exactement la même chose que la préscience de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que ce dessein arrêté? Eh bien, c'est l'intention de Dieu qui détermine, qui dessine, et c'est tout. Par son dessein, il a déterminé, il a choisi, il a décidé. Chers chrétiens, notre salut est basé sur un choix divin plutôt qu'un choix humain. Ce n'est pas une vérité qui doit susciter la peur. Plutôt, ça doit évoquer la joie et la paix. Parce que l'homme peut changer d'avis, mais Dieu, ah Dieu, quand Dieu a choisi, ni le ciel, ni la terre, ni l'enfer ne changera jamais sa décision. Gloire à Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Pierre peut écrire que nous avons un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Notre salut est incorruptible parce que c'est basé sur la volonté et la décision de Dieu lui-même. L'apôtre continue, dans le verset 2, par dire que nous sommes élus par la sanctification de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous met à part pour le salut. Et quel en est le résultat? Selon ce verset, c'est que les élus deviennent obéissants. Notez bien que notre obéissance ne précède pas notre salut. Non, notre obéissance suit notre salut. Nous sommes sanctifiés par l'Esprit afin de devenir capables d'obéir à l'appel de Dieu. C'est comme ça qu'il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La résurrection de Jésus-Christ est l'assurance de notre salut. C'est ce qui rend le christianisme différent de toute autre religion. Nul autre chef de religion n'est ressuscité des morts. Et c'est à cause de tout cela que nous avons un héritage incorruptible. Voilà la promesse de notre salut. Cette description de notre héritage est très importante. Le temps qui passe ne le détruira point. Ni le péché, car il est impossible de souiller ce salut, ni l'éternité, car le salut ne va jamais flétrir. Les persécutions et les ennuis de la vie présente font partie des choses qui changent et qui passent, mais notre héritage durera jamais. Quelle promesse que nous avons dans notre salut! Mais dans les versets 18 et 19, nous voyons un autre incorruptible. C'est le sang incorruptible de Jésus-Christ. Voilà le prix de notre salut. Notez ce que dit Pierre. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Vous avez été rachetés non pas par ce qui est périssable, mais par ce qui est incorruptible, à savoir le sang incorruptible de Christ. Ici, Pierre fait allusion à quelque chose qui se trouve dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Exode, chapitre 30 et les versets 12 à 16, Dieu commande aux hommes d'Israël de payer un demi-sicle comme un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Chaque année, tout homme devait payer ce prix, qui faisait partie du soutien du tabernacle. C'était aussi un moyen de faire souvenir aux hommes que Dieu les a rachetés de la servitude d'Égypte. Or, Pierre dit que cela est un aspect de la loi cérémoniale d'Israël, mais écoutez, vous ne serez jamais rachetés avec l'argent. La rédemption est seulement par la croix, par le sang de Jésus-Christ. On ne peut être racheté ni par l'argent, ni par l'or. Pourquoi? Parce que ces choses-là font partie de ce qui change et se corrompent. Et qui passent. Ils sont corruptibles. Et ce qui est corruptible ne peut pas acheter un salut incorruptible. Vous êtes donc racheté par quelque chose infiniment plus grand, le sang précieux de Jésus-Christ. Voici le prix que Dieu a payé pour sauver son peuple de leurs péchés, le sang de son Fils. On peut faire toute une étude sur le sang de Jésus-Christ selon les Écritures. Tout d'abord, son sang est pur. Le péché de l'homme est passé de père en fils par le sang, mais le sang de Christ, né de la Vierge Marie par le miracle du Saint-Esprit, son sang est pur et sans corruption, sans péché. Puis, le sang de Jésus est permanent. Nous sommes rachetés par ce qui est incorruptible. Son sang est donc incorruptible. Car si le sang est corruptible, il ne peut pas racheter. C'est ça la logique que Pierre emploie ici. Et ceci s'accorde bien avec le type de l'Ancien Testament. Car si l'on examine Lévitique, chapitre 16, par exemple, quand le souverain sacrificateur avait ramassé le sang du sacrifice, qu'est-ce qu'il a fait avec ce sang? Il l'a apporté jusqu'à l'intérieur du lieu très saint, dans la présence de Dieu. Où est le sang versé du Christ maintenant? Dans la présence de Dieu, bien sûr, comme le type, comme le figure de l'Ancien Testament. Le sang de Christ n'est pas dans la poussière de Palestine. Son sang ne s'est pas corrompu. Christ, notre souverain sacrificateur, l'a apporté jusqu'en la présence du Père. Je sais bien qu'il y a parfois des sceptiques qui posent la question « Est-ce qu'il y a donc au ciel une petite coupe d'or qui retient le sang de Jésus ?» Quelle stupidité! Le sang, selon la Bible, était sur le propitiatoire. Or, quel est notre propitiatoire? Christ est notre propitiatoire. Son sang est en lui. Il est ressuscité un homme complet. Et il se présente, sang et corps, devant le trône de Dieu. À propos, cette idée qu'il n'y a pas de sang au ciel est une idée imaginée. Ça ne vient pas de la Bible. Oui, je sais bien qu'on fait des objections en insistant que quand Jésus a dit, après sa résurrection, « Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. » Il n'a pas dit « chair et sang ». Oui, c'est vrai, mais écoutez, vous ne l'auriez pas dit non plus si vous étiez en train de prouver que vous n'étiez pas un esprit. Vous n'auriez pas dit « Touchez mon sang ». Non, vous diriez « Touchez ma chair et touchez mes os ». Non, mes amis, il n'y a rien dans la Bible qui parle d'un corps sans sang. Notre Seigneur se présente sans et tout devant le trône de Dieu. Le sang de Jésus est pur, le sang de Jésus est permanent, et enfin, le sang de Jésus est précieux. Oui, c'est précieux. Pour comprendre un peu comment précieux est le sang de Jésus, descendez un moment dans les profondeurs de l'enfer. Vous y verrez des riches, des pauvres, des athées, des gens religieux, des catholiques, des protestants. Mais vous ne trouverez personne qui est lavé par le sang précieux de Jésus. Montez maintenant au ciel et regardez les hommes, les femmes, les enfants du ciel. Chacun en a été lavé dans ce sang. C'est pourquoi il est si précieux, beaucoup plus précieux que l'or du riche qui voudrait quitter ses tourments en enfer. Est si précieux pour chaque saint qui se promène sur les rues du ciel. Quel grand prix pour acheter notre salut! Nous venons donc de voir la promesse de notre salut, à savoir notre héritage incorruptible, et le prix de notre salut, le sang incorruptible de Jésus. Maintenant, regardons de nouveau le verset 23. Pierre y parle du dernier incorruptible, la semence incorruptible. Et là, nous voyons la parole sur laquelle notre foi est fondée. Pierre applique tout ceci au niveau très personnel. Il dit, « Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Jacques a dit la même chose dans le premier chapitre de son livre et le verset 18. Jacques 1, 18, là nous lisons, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. » C'est ici où l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix est appliquée à l'individu. C'est le moment où le Saint-Esprit prend la révélation de la vérité, prend la divine parole, la vérité inspirée de l'Évangile, et l'applique au cœur de l'individu, de façon que cet individu soit né de nouveau. Pierre parle ici de l'œuvre du Saint-Esprit qui, par la parole de Dieu, ouvre les yeux d'un pécheur à la vérité de l'Évangile, lui montrant selon l'Évangile son péché, le jugement sur son péché, et le chemin unique qui mène au salut en Jésus-Christ. Le pécheur voit donc pour la première fois la beauté de Christ. Il sent un grand désir pour Christ et il reçoit la foi nécessaire pour accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Ainsi, la parole de l'Évangile est souveraine en ce qu'elle a en elle-même la vie. C'est une semence incorruptible qui reste éternellement dans le chrétien. C'est pour ça que le chrétien ne peut pas périr. Jésus se dresse devant le tombeau de nos âmes mortes et proclame sa parole, exactement comme il a fait avec Lazare lorsqu'il a dit « Lazare, sors !» Et Lazare est sorti. Lazare est sorti non pas parce qu'il a obéi à l'appel de Christ, mais parce qu'en appelant, Christ a communiqué la vie à Lazare. Et c'est ça que Pierre dit ici. Il dit que c'est ça que Dieu fait pour nous. Voilà donc le salut incorruptible de Dieu. Dieu l'a conçu en l'éternité passée. Dieu l'a acheté à Calvaire. Et Dieu l'applique à nos cœurs en produisant la foi et la repentance de l'individu. La grande question, la question à laquelle chaque homme, chaque femme et chaque enfant doit donner une réponse, est celle-ci. Êtes-vous né de nouveau? Est-ce que la parole de Dieu a ouvert votre cœur à voir le Seigneur et à l'accepter? Quelle grande question! Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de vie et de mort. Vous devez y répondre dès maintenant. Vous devez être né de nouveau. Vous savez vous-même si vous êtes croyant ou non. Vous savez vous-même si vous avez la religion ou si vous avez la rédemption. Laquelle avez-vous? Votre Église ne peut pas vous sauver, mais Christ le peut. Je prie que dans ce monde qui périt, que vous connaissiez le salut incorruptible de Dieu, un salut qu'il a acheté par le sang précieux de Christ. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions de ta parole qui nous donne la vie. Nous te remercions du salut incorruptible que tu nous donnes en Jésus-Christ. Nous prions que tu travailles dans les cœurs de chaque individu qui m'écoute maintenant. Et si cet individu n'est pas sauvé, que tu ouvres son cœur à accepter le salut incorruptible, car c'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.